On va parler de ça, c'est-à-dire qu'on va parler de l'histoire de l'homme, et l'histoire de l'homme telle qu'on la comprenait, telle qu'on la comprend encore aujourd'hui d'ailleurs, mais avant Lucie. Alors avant Lucie, on était tout à fait convaincus que, de manière tout à fait schématique, l'histoire de l'homme, c'était d'abord un tronc commun, un ancêtre commun avec les grands singes africains, et c'était une succession de préhumains d'abord et d'humains après. Tous les préhumains d'abord, on les appelait australopithèques, au sens très large du terme. On commençait à penser d'ailleurs que australopithèque c'était un petit peu trop générique et qu'il valait mieux élargir un peu le sujet, mais enfin on parlait d'australopithèque. Australopithèque c'était presque l'équivalent, le parallèle de préhumains, et puis les humains, c'était les hommes successifs que l'on appelait au début Homo erectus et Homo sapiens, et puis qu'ensuite on a appelé Homo habilis, et puis Homo erectus et Homo sapiens, et que maintenant on appelle, enfin on complique un peu en ce moment, Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo sapiens, avec les divergences néandertales dont je vous parlerai un tout petit peu. Avant 70, donc avant Lucie, on avait déjà fouillé beaucoup les terres africaines. Pourquoi les terres africaines? Parce que d'abord l'homme est un primate, nous sommes tous des primates, et comme tous les primates sont nés dans les régions tropicales, nous étions forcément d'origine tropicale. Donc voilà une première donnée, hein, bien assise, bien sûre. Et d'autre part, deuxièmement, comme les êtres qui, sur la Terre aujourd'hui, nous étaient incontestablement les plus proches, étaient les grands singes d'Afrique, ça voulait dire que notre origine était bien sûr les tropiques, mais plus précisément les tropiques d'Afrique. Autrement dit, tropiques d'abord, tropiques d'Afrique ensuite, c'est en Afrique qu'il fallait aller chercher les ancêtres. C'est en Afrique que beaucoup de gens dont j'étais sont allés les chercher, et c'est en Afrique qu'on les a trouvés. Donc tout est en ordre. Et avant Lucie, eh bien, il y avait eu de grandes découvertes en Afrique australe. Ça remontait à 1924, les toutes premières 1924. Je ne vais pas vous les raconter parce que je vais dépasser mon temps. Et 1924, c'était la découverte d'un petit crâne dans une carrière d'exploitation de calcaire, pas loin de Johannesburg. Et dans cette carrière d'exploitation de calcaire, on trouvait des fossiles, et parmi ces fossiles, on avait trouvé un petit crâne de ce qui allait être le premier australopithèque. Mais à ce moment-là, on ne savait pas ce que c'était. Et ce petit crâne, pour l'anecdote, était posé sur une pile de papiers, de factures, de courriers d'un chef de chantier. Lorsqu'un géologue est venu lui rendre visite, il a vu ce presse-papier, il lui a dit « c'est intéressant, est-ce que je peux le regarder ?» Bien sûr, le chef de chantier s'appelait Monsieur Spears, je ne l'ai pas connu, mais 1924 quand même, il ne faut pas exagérer. Hein. Je suis du siècle dernier, mais... Donc il l'a regardé et il a dit « mais c'est intéressant ». Et le chef de chantier a dit « c'est un crâne de Bushman ». Ben oui, bien sûr, une espèce de pré-pré-pré-Bushman. Et le géologue est parti avec le crâne, et le crâne a été étudié par un anthropologue, un médecin, un anatomiste qui s'appelait Dart. Et c'est devenu en février 1925, dans la revue Nature, que vous connaissez sûrement, au moins de réputation, Le premier préhumain reconnu et connu, qui s'appelait donc Australopithecus africanus. Nom un petit peu compliqué, on a reproché à Dart d'avoir mis du latin, du grec, ça fait rien, c'est un fossile, donc on peut tout mêler, ça n'a pas d'importance. Donc Australopithecus africanus, ça veut dire l'homme singe d'Afrique australe, voilà. Et ce petit australopithèque a été le début de toute une série, puisque ça c'était en 1924-25, Après, c'est parti en 1936 seulement, et puis en 1938, puis en 1944-45, et il y a eu toute une phase d'un sud-africaine. D'ailleurs, je vais vous raconter ça quand même, parce que c'est extraordinaire. Ça, c'est la phase sud-africaine, hein, 1924 à 1945, en gros. Et il restait à l'université de Johannesburg, dans les années 95, il restait des boîtes de fossiles retrouvées dans ces années-là. Et un ami britannique qui s'appelle Ron Clark, je parle de l'anglais, hein, donc Ron Clark, a regardé ses collections et il a dit « Mais ça, c'est du préhumain. » Et ça n'avait pas été reconnu comme préhumain. Or, il y a une grotte qui s'appelle Sterkfontein, pas loin de Johannesburg. Et cette grotte a des remplissages, comme beaucoup de grottes. Et ces remplissages ont été appelés en bas Sterkfontein 1, au-dessus Sterkfontein 2, au-dessus Sterkfontein 3, Sterkfontein 4, Sterkfontein 5. Et tous les australopithèques trouvés à partir de 1936 venaient de Sterkfontein 4. Et on disait Sterkfontein 4, préhumain, 2,6 millions, 2,8 millions. Et dans la boîte, inconnue, pas déterminée, il y avait des ossements pour Ron Clark, 1995, de restes qui appartenaient, selon lui, à des préhumains. Et c'était écrit Sterkfontein 2. Alors, au lieu de 4, ça pouvait être non seulement 3, mais 2. C'était extraordinaire. Alors, moi, je suis allé voir Ron Clark en Afrique du Sud, et il m'a montré ça, et c'était... je vous montre pas mon pied, hein, mais je vous montre le pouce, mais en fait, c'est le pouce de pied qu'il avait trouvé. Donc, il avait quelques os, et d'un hallux, d'un pouce de pied, très divergent par rapport aux autres orteils. Et il l'a appelé « Little Foot ». Ça vaut ce que ça vaut, hein, mais ça a été publié sous le nom de Little Foot. Mais Little Foot, 3,3 millions quand même. Peut-être ancêtre de l'homme, quoi. Alors tout d'un coup, au lieu de 2,8 millions au maximum, c'était 3,3 millions. Et alors je vous raconte ça comme je l'ai entendu. Ron Clark m'a présenté un Zoulou, un de ses collaborateurs africains. Et il m'a dit, voilà comment ça s'est passé. Je lui ai dit... Regarde ce que j'ai trouvé. Là, c'est un petit peu cassé. Tu vas descendre au fond de la grotte. Et le fond, j'y suis allé, hein, c'est profond. Pour descendre, moi, j'ai pas eu de peine pour monter. Et alors, il lui a dit, tu vas regarder, on sait jamais. Ça a été cassé pendant la fouille. Et la fouille était de 1936 ou 38. Comme personne n'est descendu depuis, peut-être que tu vas trouver l'autre bout. Et alors, l'autre, le collaborateur Zoulou est descendu, et il est remonté un jour et demi après, quand même, faut tenir, hein. On déjeune bien ici, là-bas, un jour et demi, faut quand même avoir de la bonne volonté, avec une torche, je suppose, et il a dit, « Sir, I think I found it. » Alors, Ron Clark lui aurait dit, j'ai entendu en effet la voix de ce collaborateur, c'est extraordinaire, et Ron Clark lui a dit, « Really ?» I don't know. You should come with me. Et ils sont descendus et il y avait le contact. C'est-à-dire que Ron Clark ensuite a fouillé et a trouvé toute une partie du membre inférieur, pas le bassin encore, toute une partie du membre supérieur, le crâne, et quand j'y étais, le crâne de ce bonhomme de ce préhumain de 3 300 000 ans était là dans la brèche osseuse au fond de Sterkfontein, au fond de la grotte de Sterkfontein 2. Alors ça, ce sont des notions récentes, hein, 95 et puis 97, 18, 19. Donc c'est en cours, ça. Mais ne mélangeons pas les temps. Donc 25-45, la première grande phase de reconnaissance des préhumains, ce que l'on appelle Australopithèque, et ensuite est venu s'ajouter à l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est. Et en Afrique de l'Est, L'histoire a commencé il y a longtemps, mais ça n'a pas été bien reconnu. D'abord, encore une fois, Louis Leakey, britannique, d'Afrique orientale, a trouvé une petite dent, mais il l'a pas reconnue. Et c'était dans les années 30, je sais pas quoi, 37, 38. Et ensuite, en 39, il y a eu des fouilles allemandes, qui ont trouvé un petit peu plus de restes d'Australopithèque, mais qui n'ont pas non plus vraiment reconnu, qu'ils ont appelé autrement. Et en 1959, vous voyez le temps que ça prend, en 1959, Louis Leakey a découvert un crâne, il y avait des morceaux, mais quand même bien recollés, c'était un crâne presque complet avec toute la dentition. Un crâne d'un jeune homme de 16 ans, disait-on, mais la denture était absolument complète, superbe, dans les gorges d'Olduvai. Olduvai, ça se trouve en Tanzanie, et c'était donc en 1959. Et à ce moment-là, le crâne a été annoncé à un grand coup de trompette, et en 1961, pour la première fois, toute première fois, Louis Leakey a eu l'idée et a publié la datation absolue de ce crâne, c'est-à-dire une datation par mesure de la radioactivité du potassium. Alors je vous raconte vite, toute l'Afrique de l'Est est très volcanique, il y a des niveaux volcaniques, il y a des niveaux volcaniques au-dessus des eaux et sous les eaux, donc on peut dater en dessous, dater au-dessus, c'est formidable. Et ces niveaux volcaniques contiennent du potassium qui, le jour de l'éruption volcanique, est natif. Or c'est du potassium radioactif. Comme tout produit radioactif, c'est un produit instable. Donc à partir du jour de l'éruption, le produit en question, il se désintègre. Et il se désintègre en argon, qui est un gaz, et en calcium. Mais heureusement, la désintégration se fait parfois dans des cristaux. Donc dans le cristal, il y a le potassium d'origine, et puis il y a le calcium et l'argon de désintégration. Et là, comme on connaît la vitesse de désintégration, on compte ce qu'il y a d'argon, et du coup, on a la datation dite absolue. Il y a une marge d'erreur, mais quand même dite absolue. Et je vous raconte ça pour l'histoire, parce qu'en 59, il y a eu la découverte de ce crâne d'un préhumain, d'un australopithèque, et en 1961, pour la première fois, une datation absolue par le potassium-argon, la méthode dite du potassium-argon, d'1 750 000 ans. 1 750 000. C'était une grande affaire. Ça, c'était vraiment une révolution à ce moment-là. Hein. Et c'était seulement en 61. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une flambée de recherche. Tout le monde est parti en Afrique orientale, moi aussi, hein, avec mon petit bagage. Et puis on s'est mis à fouiller partout et à trouver partout, et on a trouvé des tas de choses. Alors moi j'avais fouillé d'abord beaucoup au Tchad, j'avais fouillé 7 ans au Tchad, et ensuite je suis allé fouiller en Éthiopie à partir de 1967. Et en Éthiopie, on avait une série, enfin je ne vais pas tout vous raconter, mais une séquence superbe. Imaginez la falaise comme le mur là. C'était une séquence d'une falaise d'un kilomètre de hauteur, un peu plus même, 1,2 km, chose comme ça, 1 200 mètres, avec des couches successives, comme vous les voyez dans le mur, là, et avec des niveaux volcaniques intercalés. Et dans chaque niveau volcanique, il y avait une possibilité de datation. C'est formidable, hein ? Une espèce d'étalonnage du kilomètre. Enfin, les anglo-saxons se moquaient de moi, ils disaient vous avez à Paris le mètre étalon, maintenant c'est le kilomètre étalon de Copain, c'est pas le kilomètre étalon. Je vous raconterai autre chose à ce propos. Et là-dedans, on a trouvé des hommes fossiles et des préhumains fossiles en quantité, dont Australopithecus ethiopicus, mais je ne vais pas tous vous les citer, qui était un autre australopithèque, et qui à ce moment-là, c'était en 67, était le record, 2,5 millions. Louis Leakey, en 1961, avait parlé d'1 750 000, et ça a été oublié depuis, hein, mais en 1967, nous avions, avec une nouvelle forme d'Australopithèque, 2 500 000 ans. Et au moment où je fouillais, moi, dans ce sud éthiopien, c'était le sud-ouest de l'Éthiopie, juste à la frontière du Soudan et du Kenya, et je reçois à Paris, j'étais à ce moment-là au Musée de l'Homme, la visite de Maurice Taïeb. Maurice Taïeb, on en arrive à Lucie. Il est inquiet, l'organisateur, parce qu'il voit le retourner. Maurice Taïeb était un ami, un collègue, un géologue, et qui faisait sa thèse sur la géologie du bassin hydrographique d'un fleuve qui s'appelle l'Awash. Alors l'Awash prend sa source pas loin d'Addis Abeba, à plus de 2000 mètres, dégringole dans la rift, dans le fond de la phare, et puis est drainé par la faille de la phare sur 300 km comme ça, tout droit. Vous savez, un fleuve qui marche tout droit sur 300 km, c'est qu'il se passe quelque chose d'anormal, hein. Ça peut autrement, les fleuves, ça se promène. Et au bout de 300 km, file à nouveau vers l'est, et n'arrive pas jusqu'à l'océan Indien. N'arrive pas ni sur la mer Rouge, ni sur l'océan Indien, se trouve bloqué par ce qu'on appelle un horst, c'est-à-dire par des reliefs. Donc, Maurice Taïeb vient me voir au Musée de l'Homme avec une dent d'éléphant superbe. Et moi, je connaissais bien les éléphants, j'avais travaillé beaucoup les éléphants auparavant. Une dent d'éléphant d'un site de la phare, justement, là où il faisait sa thèse. Et il me dit, regarde, qu'est-ce que tu en penses? Et par la hauteur de la dent, par le nombre de ses lames, une dent d'éléphant, c'est un petit peu comme un radiateur. Ça a des quantités de lames comme ça. Ce sont des lames d'émail avec de l'ivoire dedans et puis du ciment entre les lames pour cimenter le tout. Et d'après la hauteur de la dent, d'après le nombre de la fréquence de lames, je lui dis, ça ressemble à un éléphant qu'on appelle l'éléphant Reiki. Si c'est vraiment ça, ça veut dire 2 à 3 millions d'années. Il me dit, c'est formidable. Il repart, je l'encourage bien sûr à chercher autre chose. Le premier site s'appelait Leidi. Et il revient l'année suivante avec d'autres restes, d'autres fossiles, d'autres vertébrés, d'autres ossements, d'un autre site qui s'appelait Gawani. Et il me dit, regarde ça. Et ça m'a semblé être la même chose. Même genre d'éléphant, mais cette fois il y avait d'autres restes de vertébrés. Et je dis, écoute, ça c'est entre 2 et 3 millions d'années aussi, il faudrait qu'on organise quelque chose. Et donc à ce moment-là, moi je travaillais dans le sud de l'Éthiopie, lui il travaillait sa thèse dans l'est de l'Éthiopie, et c'est à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir de 72, qu'il a eu l'idée de un peu encouragé évidemment par mes déterminations, de monter une expédition. Et il a appelé cette expédition l'IARE, International Afar Research Expedition, IARE. On en était en 72. Et Taïeb m'a dit, moi j'aimerais bien, c'était lui qui était à l'origine quand même de ça, hein, j'aimerais bien que cette expédition soit internationale. J'ai dit, oui. Et on va l'organiser comme ça. Et donc il a prévu tout à fait au début, en 72, deux Français, deux Américains. Alors les deux Américains, c'était un certain John Kalb, qui était du Texas, un autre qui s'appelait Donald Johansson, que je connaissais bien, qui était déjà avec moi dans le sud éthiopien, qui lui était de Chicago. Et puis les deux Français, c'était lui, Taïeb, et moi. Donc on est parti à quatre en 72, et on est parti un peu imprudemment, en avril et en mai. Il faisait une chaleur, vous ne pouvez pas vous imaginer, c'était vraiment très chaud. Alors on a trouvé beaucoup de fossiles, mais pas de restes d'hominidés. Mais étant donné l'expérience qu'avait eue Louis Leakey en Tanzanie, étant donné l'expérience que moi j'avais déjà depuis des années dans le sud éthiopien, on savait que le genre de fossiles que l'on avait découvert correspondait à des sites de 2 à 3 millions d'années, un petit peu moins de 2, un petit peu plus de 3, et qui avaient forcément du préhumain dans ces niveaux-là, à cet âge-là, forcément. Et je me suis offert le luxe, c'est pourquoi je vous le raconte, de le dire dans un congrès, dans un colloque qui s'est tenu à Paris, en 72. Tu vois là, on travaille maintenant, j'ai travaillé beaucoup dans le sud éthiopien, maintenant je travaille dans l'est de l'Éthiopie aussi, et ce que l'on a trouvé est si clair du point de vue de la datation qu'on va trouver des hominidés. Et l'année suivante, 1973, premier reste de dominiens. Enfin, on les attendait. Hein. Un petit bout de temporal et un genou, que bêtement j'avais appelé le genou de Claire. Alors, en 74, Lucie a éclipsé Claire, on n'a plus parlé de Claire du tout. Hein. Alors le genou était très beau, c'était un petit bout de... Enfin, quand même, très beau pour un anthropologue, vous voyez, c'était un bout comme ça, terminal d'un fémur, et puis un petit bout de tibia, enfin il y avait l'articulation, enfin le genou était beau, c'est beau. Un peu chimpanzé, mais quand même, on l'appréciait. Et ça c'était 73, et puis 74, Lucie, alors 74. Alors il faut dire que les préhumains, datant, comme vous l'avez bien entendu, à ce moment-là, de au moins 1 million, 2 millions, 3 millions d'années, c'était des restes qui étaient très parcellaires. C'était un bout d'os, un bout de crâne, un bout de dent, un bout de mâchoire, et on était très content d'avoir ça. Un genou, c'était extraordinaire parce que c'était une articulation. Or, en 1974, deux jeunes gens, l'un s'appelait Tom Gray. C'était un Américain, du Texas lui aussi d'ailleurs, élève de Johansson. Il travaillait lui sur la faune. Et puis l'autre était éthiopien, et je regrette vraiment, parce que c'est désagréable et il faudra mettre ça au clair un jour, mais je n'ai pas retrouvé le nom de cet éthiopien, et il est aussi important que le nom de Tom Gray, mais c'était ces deux jeunes gens qui prospectaient. Et le soir de cette prospection, ils sont arrivés au camp avec quelques ossements. Et ces ossements qu'ils avaient, eux, plus ou moins reconnus, mais il n'y a pas de raison de leur jeter la pierre, même taillés, qu'ils avaient reconnus, hein, Tom Gray avait bien reconnu que c'était probablement de l'hominidé, donc révélaient qu'il y avait un autre site d'hominidé que se trouvait en 73. Et sur notre listing, sur notre beau catalogue, après avoir mis AL-128 pour les restes d'hominidé de 73, AL-129 pour le genou de 73, on avait accumulé les autres sites depuis, on avait travaillé depuis, et on arrivait à AL-288, et c'était AL-288, et on a mis site à hominidé. Deux petits bouts d'hominidés de plus, c'était un site à hominidés. Ce n'était pas surprenant, puisqu'on en avait eu l'année précédente, et puisqu'on l'avait prévu 2 ans auparavant, mais c'était intéressant, et c'est toujours intéressant d'avoir un site à hominidés. Donc le jour suivant, on y est allé, on a regardé ça de plus près, on a commencé à voir que c'était un hominidé, ou deux hominidés, qui avaient été sortis par l'érosion de leur couche sédimentaire originel, qui avait comme ça été entraîné le long d'une sorte de petits ravineaux, de petits ruisseaux d'érosion, c'est-à-dire que c'était entraîné sur 40 cm de large au maximum et au moins 10 mètres de long. Alors tout le long de ce petit ravineau, on a ramassé des choses, en les pointant, hein, bien sûr, et le soir, ou le lendemain soir, ou le surlendemain soir, on s'est dit quand même, c'est bizarre, il y a un bout de tibia droit, il n'y en a pas deux, il y a un bout de fémur gauche, il n'y en a pas deux, il y a des petits bouts de crâne, mais ça a l'air d'être seulement d'un crâne, il y a des petits bouts d'une mâchoire inférieure, peut-être qu'au lieu d'être site à hominidé au pluriel, c'est peut-être bien site à un hominidé. Ça c'était nouveau, un individu, au lieu d'avoir plusieurs restes de plusieurs individus, c'était nouveau, et nouveau aussi dans l'information. Alors on est retourné et on a trouvé la moitié du bassin. Et la moitié du bassin avec le sacrum. Il y avait le sacrum superbe, comme un sacrum humain, aux proportions les mêmes, mais aux tailles un peu différentes, un peu plus petites. Et la moitié du bassin ressemblait tellement à la moitié d'un bassin féminin d'aujourd'hui. On s'est dit, c'est encore mieux que l'on ne pensait, ce n'est pas un hominidé, vous voyez. J'espère que je vais être apprécié d'une partie de l'assistance, mais c'est une hominidé. Alors on a transformé AL288 en site à une hominidé. Et à ce moment-là, alors la presse a raconté beaucoup de choses. Hein. À ce moment-là et avant et après, pendant qu'on marquait les fossiles, vous savez, quand on rentre au camp, le soir on dîne et puis après on marque les fossiles. Il y a toujours du travail du soir avec la lampe pression et les fossiles, on les marquait les uns après les autres. Et en les marquant, comme il n'y avait pas d'autre chose à faire que de marquer, on écoutait des cassettes. Alors on avait des cassettes de Bach, des cassettes de Mozart, on avait la radio, on avait pas grand chose. Hein. Et puis autrement, on écoutait une cassette, une fameuse cassette des Beatles, avec Lucy in the Sky with Diamonds, LSD d'ailleurs. Et du coup, AL288 s'est petit à petit commué en Lucy, comme ça, parmi les jeunes gens du camp. On était quoi, une trentaine de chercheurs. Et Lucy est apparue comme ça, vraiment comme ça. Et ce qui est amusant, c'est qu'on a eu la visite dans ces moments-là. Donc c'était en novembre, décembre 1974, d'Américains, de l'ambassade des États-Unis à Addis Abeba. Et ils ont vu ça, ils ont entendu ça, ils sont retournés à Addis Abeba, ils ont parlé à l'ambassade, l'ambassade a parlé à des agences de presse. Et sans qu'on soit au courant, notre découverte a été transmise à Addis Abeba, transmise aux agences qui n'avaient pas d'informations parce qu'on n'avait pas les portables insupportables d'aujourd'hui. Et la première expression de la presse, le premier communiqué de presse de l'agence, je crois que c'est Reuters, mais je suis pas sûr. Je ne suis plus sûr, c'était l'IARE, vous vous souvenez, International Affairs Research Expedition, a fait une découverte extraordinaire. Ils ont trouvé un squelette complet d'un hominidé, alors c'était loin d'être complet, mais quand même, de quelques millions d'années, et ils l'ont appelé Lucy parce que Lucy vient du latin lux, lux signifie la lumière, et ils sont éclairés sur nos origines. 30 jeunes gens au cœur de la brousse cuisante, je vous assure, n'étaient pas intellectuels pour deux sous et n'avaient pas du tout pensé à cette origine du mot. Ensuite, bien sûr, on a fait le lien et puis on en a parlé aussi un petit peu comme ça et c'était pas complètement faux, mais sur le moment, l'inspiration ne venait pas du tout de là. Alors, Lucie, on a tamisé, on a ramassé des centaines de morceaux, ça on le dit pas assez, mais des centaines de morceaux, dont plein de petits morceaux qu'on ne sait pas où mettre, qui se rattachent à rien du tout. Mais parmi ces centaines de morceaux, il y en avait quand même 52 qui étaient déterminables, qui ont été déterminés, et qui permettaient de reconstituer tant bien que mal un squelette. J'allais dire un petit squelette, mais c'est vrai que c'est un petit squelette, de préhumain. C'était la première fois. Qu'on arrivait à reconstituer autant d'un corps et d'un seul et même corps. Alors c'était très intéressant parce que d'abord on avait la taille de ce corps. C'était apparemment un sujet féminin, donc ce corps était petit, était gracile, il faisait 1m10, 1m20 au maximum. Et le poids estimé à partir de ça, ça faisait 25 kilos au maximum aussi. Et les articulations, bien sûr, on les a fait fonctionner. Et on a vu un petit peu comment ça pouvait marcher au sens propre. Et les labos se sont partagés un petit peu le travail, quelquefois en se superposant, je veux dire en faisant deux fois la même chose, mais ça avait importance, ça permettait d'être d'autant plus conforté dans les conclusions. Et moi, mon labo à Paris, évidemment, s'est mis d'arrache-pied, si j'ose dire, à l'étude de ces ossements. Alors j'ai distribué le travail, chose intéressante d'ailleurs. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre pour les psychologues ou psychanalystes, je ne sais pas quoi. Il me semble que je ne fais pas de distinction entre les chercheurs, étudiants, thésards, hommes ou femmes. J'ai l'impression vraiment de ne pas faire de distinction. Et j'ai l'impression aussi de ne pas être directif. Or, les hommes ont pris la tête, la reconstitution du cerveau, l'articulation temporomandibulaire, les dents, la colonne vertébrale, voilà. Les filles ont pris le membre supérieur, le coude, la main, le bassin, le membre inférieur, le pied, le centre de gravité, les centres de gravité. Ce serait trop facile hein, de conclure. Donc j'ai eu des dames, aujourd'hui brillantes, aujourd'hui bien lancées dans la vie professionnelle, qui se sont appelées Christine Tardieu, qui a étudié le genou, Christine Berge, qui a étudié le bassin, Yvette Desloison, vous voyez, je mens pas, qui a étudié le pied, Brigitte Senu, qui a étudié le coude, et puis après l'humérus, Anne-Marie Bacon, qui a étudié le membre inférieur dans son ensemble, enfin je vous en passe, hein. Et puis des garçons comme Pascal Pic, qui a étudié l'articulation temporomandibulaire, et puis un médecin de Marseille, qui a étudié les colonnes vertébrales, enfin bref. Donc voilà un petit peu mon souci. Non, c'est pas un souci. Mon observation. Alors on a étudié Lucie de la tête aux pieds. La tête, c'était assez facile parce qu'elle était un peu brisée. D'ailleurs, c'est un certain monsieur Smith qui a étudié la tête de Zurich. Et vous voyez, c'est encore un garçon. Et cette tête ne nous a pas appris grand-chose, mais comme on a trouvé d'autres crânes après, on a eu quelques informations. Et ce crâne était très prognate, très projeté. Et le trou occipital par où passe la moelle épinière était très en dessous et très en avant, comme un être vraiment debout. Ensuite, la colonne vertébrale, il n'y avait pas de vertèbre cervicale. Mais les vertèbres thoraciques, les lombaires, les sacrés, faisaient les courbes de notre propre colonne vertébrale. Donc apparemment, la colonne vertébrale était agencée, équilibrée, comme la colonne vertébrale d'un être redressé. Tout ça, ça nous confortait dans l'idée qu'on avait vraiment affaire à un préhumain, avec des étirements un peu. Hein. Les courbes étaient un petit peu étirées par rapport aux courbes actuelles, mais quand même. Le bassin, c'était celui qu'on attendait. Quand on est debout, on a tout un morceau du corps qui pèse sur le bassin. Donc le bassin d'un être debout, c'est un bassin en pression. C'est un bassin court, parce qu'il porte, hein. Il a ses rôles d'accouchement, parturition, il a ses rôles de locomotion, mais il a aussi son rôle de pondération, là, de soutien de toute une partie du corps. Or, le bassin de Lucie était un bassin en pression et élargi. C'était le bassin qu'on attendait. Pas tout à fait, hein, plus compliqué que ça, mais quand même. C'était pas un bassin en tension comme ceux des grands singes. Le fémur, merveille. Il avait un long col, alors celui-là on l'attendait pas. Déjà le nôtre casse de temps en temps, mais alors celui-là ça devait pas être facile. Donc après la tête du fémur et le col, le corps était bien oblique, comme quelqu'un qui est debout. Quand on étudie les petits aujourd'hui, quand ils ne marchent pas, ils ont des fémurs tout droits comme ça. Et quand il commence à marcher, ça se referme vers l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils prennent l'obliquité due aussi au poids de l'ensemble du corps. Or, les fémurs de Lucie avait bien cette obliquité que l'on espérait. Et on arrive au genou, c'était Christine Tardieu qui vient me voir avec une grande planche comme ça, couverte d'ossements, et elle me dit, regardez, ça ne marche pas. Enfin, c'était le mot, hein. Je dis, comment ça ne marche pas? Elle me dit, non, ça grimpe. Alors, nous, on a le bas du fémur qui est comme ça, et qui s'enclenche sur des épines osseuses du tibia, qui sont à la surface supérieure du tibia, et ça s'enclenche comme ça. Alors, nous, la base de notre fémur, notre échancrure, là, elle est étroite. Et les épines tibiales sont élargies, et du coup, l'enclenchement est très, très solide, très stable. Or, Lucie, elle avait une échancrure large, et puis une tête de tibia tellement serrée que, au lieu de deux épines, on avait l'impression qu'il n'y en avait plus qu'une. Et du coup, ça donnait une espèce de facilité de rotation du genou. Elle pouvait jeter la jambe comme ça. Ça nous désespérait. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, Christine Tardieu avait mis le doigt, si j'ose dire, ou l'œil en tout cas, sur l'aptitude à grimper de Lucie. Ça nous a beaucoup troublés. Et quand on a continué l'étude du squelette, on est arrivé à la cheville, on n'avait pas grand-chose de la cheville, mais quand même quelques éléments, et au pied, et la cheville était aussi instable que le genou, le pied était plat avec une pression plus forte de la partie externe du pied, pas de voûte plantaire, et un hallux un petit peu comme ça, divergent. Et le membre supérieur, au contraire, qu'étudiait Brigitte Senu, s'était révélé par l'épaule, par le coude, par le poignet, au contraire très solide, très très solide. Et on a ce genre d'articulation, surtout les grimpeurs. Nos chimpanzés cousins grimpeurs, ils ont de très fortes articulations du membre supérieur, sans doute pour les tractions, pas de tennis elbow, quoi, faut pas que ça dérape de ce côté-là. Et ils ont au contraire un membre inférieur qui est beaucoup plus mou, si j'ose dire, beaucoup plus instable, beaucoup plus lâche, parce qu'ils n'ont pas l'exigence que nous avons, nous, d'une bipédie exclusive. Alors, après ça, on s'est... Évidemment, cette déclaration-là, c'était déjà extraordinaire, hein. Les Américains ne suivaient pas, d'ailleurs. Puis petit à petit, en traînant les pieds ou les genoux, ils ont suivi. Mais grâce à mes filles là-bas, Brigitte Senu, Christine Bench, Christine Tardieu, on a dit très vite, Lucie marche et grimpe. C'était une grande nouveauté, ça. C'était une grande nouveauté, c'est-à-dire qu'on réalisait, de manière un peu schématique, hein, parce que c'est plus compliqué que ça, mais on réalisait que avant les humains, il y avait eu des préhumains. Bon, ça, on le savait, ça allait de soi, mais que ces préhumains grimpaient encore comme ceux d'avant, ou à peu près, et ils marchaient déjà comme ceux d'après, ou à peu près. Alors, ils ne marchaient pas tout à fait comme ceux d'après, et ils ne grimpaient pas tout à fait comme ceux d'avant, mais c'était une espèce de situation entre les deux, et qui était une superbe démonstration de l'évolution, avec des préhumains qui ne sont pas encore complètement installés dans la bipédie permanente. Et ça a permis aussi de démontrer que qu'il y avait plusieurs bipédies, qu'il y avait une évolution dans la bipédie, et que ce n'était pas comme ça, on n'était pas d'abord à quatre pattes, puis ensuite ou grimpeur, et puis ensuite bipède, et puis ça y est, c'était fini, on était installé dans la bipédie d'aujourd'hui. C'était beaucoup plus compliqué, c'était plus logique en même temps. Mais vous savez, même des choses évidentes, il faut un certain temps, quelquefois, pour les faire admettre, par la communauté scientifique d'abord, et puis le public ensuite. Donc c'est grâce à Lucie que tout ceci s'est installé. Alors les expériences, je vous raconte pas tout, mais les expériences pour étudier les centres de gravité, c'est Christine Tardieu qui s'y a été attelée, elle a inventé des collants, des collants marqués de lignes verticale et de ligne horizontale. Donc elle étudiait chaque croisement. Et elle avait installé dans le laboratoire d'anatomie, qui était une espèce de grand hangar, dans une espèce de grand, oui, c'est une espèce de hangar, c'est là que j'ai disséqué mon éléphant il y a bien des années. Elle avait installé une espèce de grande ligne au milieu, comme sur une autoroute, vous voyez, une grande ligne blanche, et puis sur les côtés, elle avait mis des appareils photo qui étaient branchés en série, et puis qui flashaient à fraction de seconde régulière, et elle a fait marcher sur cette ligne, évidemment, des hommes, adultes, vêtus de ces collants, des femmes, adultes, vêtues de ces collants, des enfants, elle a pris d'ailleurs ses propres enfants, avec les enfants ça marchait déjà pas très très bien, hein. Il fallait aller jusqu'au bout du hangar, et il voulait bien commencer, mais même s'il y avait une récompense au bout, ça divaguait un petit peu, et des chimpanzés. Alors, les chimpanzés, je vous dis pas combien de fois il a fallu s'y reprendre pour que le chimpanzé suive la ligne et arrive à l'autre bout de l'histoire. Et ceci, évidemment, étudié de manière dynamique, cinématique, a permis de voir comment évoluaient les centres de gravité des différents segments des membres, puis du corps en général, en fonction de la locomotion, des petits, des grands, des cousins, et du coup d'interpréter aussi bien qu'on pouvait le faire la démarche de Lucie et d'autres préhumains naturellement. Alors ça a été, voilà, ces grandes opérations des années 75, 16, 17, 18, 19, 20, 80, ça a duré un petit peu après 80. Et Lucie à ce moment-là, alors je ne vais pas vous en parler longtemps parce que vous connaissez bien l'histoire, mais Lucie à ce moment-là nous a doublé, dépassé, est devenue une espèce de vedette, de star, sans notre autorisation. Nous on l'avait lancée, mais elle s'est bien débrouillée toute seule après. Alors j'ai eu plein de petites histoires bien sûr à ce moment-là, mais je ne vais pas les multiplier, mais quand même je voudrais vous en raconter peut-être deux. Il y en a une qui m'amuse beaucoup et qui était tout à fait à mon avantage. Un jour, je vais à l'aéroport, comme souvent, c'était à Roissy, et Roissy, c'est un peu loin de Paris, donc il faut s'y prendre à l'avance pour arriver à l'heure, et j'avais un taxi qui traînait, qui n'avançait pas, ça m'embêtait beaucoup, et il était excité comme il n'est pas permis, il s'agitait sur son siège, il se retournait, il regardait dans son rétroviseur, puis rien ne venait. Puis tout d'un coup, je suppose qu'il a eu la lueur et il m'a dit et comment va Julie ? J'ai cru comprendre qu'il s'agissait de Lucie, j'étais très fier. Hein. Alors je lui ai dit toujours aussi squelettique. Ah, il était content comme tout et après il a marché normalement quoi. Donc ça c'était à ma gloire. Et alors, tout à fait contre ma gloire cette fois, c'est là qu'on voit que le succès est éphémère. Contre ma gloire, il y a eu cette histoire superbe, c'était dans les années 80, ça, d'un réalisateur qui avait voulu faire un film sur l'histoire de l'homme. Et pour être gentil avec moi, il avait appelé, comme je m'appelle Yves, il avait appelé son film, qui était aussi sorti sur France 3, pour ceux qui ont vu France 3 ces jours-ci. Il avait appelé son film Yves, Lucie et les autres. C'est joli, hein? Yves, Lucie et les autres. Alors, comme d'habitude, comme vous le savez, les journaux de télévision s'y prennent 15 jours, 3 semaines à l'avance quand ils veulent faire un petit peu plus, quand ils veulent faire un petit article rédactionnel sur le film qui va sortir. Et ma secrétaire, j'étais à ce moment-là au Musée de l'Homme, ma secrétaire a reçu un coup de téléphone de Télé 7 jours, d'une jeune femme qui demandait des photographies des deux squelettes. Alors elle a dit, on va vous envoyer la photographie de l'un des deux. Et l'autre vieillit, mais enfin, il est encore représentable, voilà. Je voudrais quand même avancer. Alors j'ai retenu là juste un petit poème, je vais vous en lire seulement un morceau. C'est un monsieur charmant qui, je crois, aujourd'hui est mort, et qui m'avait envoyé ce poème à la gloire de Lucie, mais tout à fait inquiétant, parce que vous allez voir comment il traite les écritures, avec un E majuscule, les écritures sacrées. Et le conseil primate au fond de son Afrique, ayant stigmatisé cette incongruité, décréta doctement à l'unanimité qu'il faut bannir un tel monstre biologique. Et Adam renia l'ancêtre simiesque. Il alla habiter de rupestres abris, pendit la crémaillère, invita les esprits et décora ses murs de somptueuses fresques. C'est un peu tôt quand même. Il déroba Lucie à sa tribu sauvage, cette australopithèque experte en mutation, cette fille gracile aux yeux pleins d'émotion, et l'emmena chez lui pour tenir son ménage. Déjà un peu louche, hein. Quelques lunes plus tard, fallait s'y attendre, hein. Lucie lui donna Ève. Ben voilà. Vous vous rendez compte? Adam qui saute Lucie, et voilà que Ève devient la fille d'Adam et de Lucie. Et c'était un vieux monsieur qui était inspecteur des écoles. Voici l'os de mes os et la chair de ma chair, put proclamer Adam. Cet enfant lui fut cher car il concrétisait son fantastique rêve. Il put donc programmer la famille Sapiens. Ève s'épanouit comme un beau nénuphar. Lucie alla mourir au pays des affaires, fidèle au rendez-vous avec Yves Coppens. Quand même, je ne pouvais pas rater ça. Alors, la suite. D'abord, on avait quelques idées sur le Tchad, hein, parce que j'y avais travaillé 7 ans, mais je n'avais pas trouvé, j'avais trouvé un fossile humain, mais pas un fossile très humain, très ancien. Et on avait aussi quelques idées dès 1974, et ça n'a pas été assez dit, dès 1974, dès l'année de découverte de Lucie, sur des hominidés qui avaient au moins le double d'âge. Lucie a été bien datée par la méthode du potassium argon dont je vous parlais. Moi, j'avais fait des méthodes de datation relative par la biochronologie, par les fossiles, et j'arrivais à 2-3 millions d'années, peut-être un petit peu plus de 3, et la datation par potassium argon, ou argon 40, argon 39, qui est maintenant un petit peu plus précise, mais c'est le même principe, arrivait à 3 millions 180 000 ans, 3 millions 180 000, 3 millions 2, quoi, en gros. Et on savait dès 1974 qu'il y avait, enfin certains savaient, qu'il y avait au Kenya des sites avec des restes de 6 millions d'années. En 1974 même, l'année de la découverte de Lucie, avait été trouvé sur un site qui s'appelait Lukeino une dent. Alors cette dent a été négligée par un certain nombre d'auteurs, considérée comme singe par un certain nombre d'autres auteurs, et considérée, j'en suis fier, comme pré-humain par certains dont j'étais. Moi, j'ai toujours fait état de cette dent, et j'ai encouragé les gens de chez moi à y aller. Je leur disais, moi, si j'avais un terrain à prendre en Afrique aujourd'hui, ce serait Lukeino. Et à Lukeino, ils ont trouvé Aurorine. Aurorine de 6 millions d'années, qui a fait du bruit il y a quelques années. Et Brunet a trouvé Toumaï au Tchad, sur le site de Menalla, site sur lequel j'avais déjà trouvé beaucoup de restes de proboscidiens, notamment d'éléphants, de pré-éléphants. C'est-à-dire que tout ça était, on peut pas dire annoncé, mais non, on peut pas dire ça comme ça. Mais tout ça est dans l'ordre des choses, quoi. Ceci dit, les découvertes ces 20 dernières années sont fantastiques, parce que de manière tout à fait claire, on a étendu ce monde des préhumains de 3 millions d'années que l'on commençait à connaître à 4, 5, 6, 7 millions d'années. Hein. Touma, il y a 7 millions d'années. Alors, reprenons l'histoire telle qu'elle est aujourd'hui, un peu rapidement, avec toute la connaissance de ces 20 dernières années. Il y a une grande fourche, un grand embranchement à partir d'ancêtres communs que l'on ne connaît pas ou que l'on n'a pas bien reconnus autour de quoi? En Afrique tropicale, autour de... J'ai dit 10 millions d'années dans le film que vous avez peut-être vu pour arrondir, mais c'est peut-être un petit peu moins. Et puis, à partir de ça, se développe probablement toute l'histoire des grands singes africains, et en particulier des bonobos et des chimpanzés, et toute l'histoire des préhumains et des humains. Et du côté des préhumains et des humains, comme ça se passe dans des terrains plus accessibles que des terrains de forêt, des terrains de savane, on en a un bouquet. Et je me suis dit, est-ce que je parle de tous? Il y en a 15. Vous vous rendez compte? Alors 15 répartis sur un certain nombre de millions d'années, mais je vous cite les principaux très vite. Le plus ancien qui me tracasse toujours, et celui-là, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire, il a 9 millions et demi d'années. Il n'est représenté que par une demi-mâchoire supérieure. Il s'appelle Samburupithecus, il a été trouvé au Kenya. Et il a toutes ses dents jugales, c'est-à-dire prémolaires et molaires, qui sont des dents larges, avec un grand élargissement vestibulolingual, c'est-à-dire dans la largeur, comme chez les australopithèques, et avec un émail épais, comme chez les australopithèques. Samburupithecus, 9 millions et demi d'années. Est-ce que c'est un ancêtre commun? Est-ce qu'il est déjà hominidé? Je ne sais pas. Celui d'après, c'est Toumaï. Toumaï, superbe découverte, faite en 2001, publiée en 2002. C'est la découverte d'un crâne. C'est aussi le problème, hein. Aurorine, on a les... Comment on dit à la télévision? La tête et les jambes. Aurorine, on a les jambes. Toumaï, on a la tête. Alors, allez les comparer. C'est forcément... Il y a des clashs entre les différents découvreurs, hein, parce qu'ils ne peuvent pas comparer les objets de leur découverte pour le moment. Brunet est en ce moment au Tchad, et j'espère qu'il va trouver des éléments des membres, et notamment du membre inférieur. Toumaï, 7 millions d'années, on en a le crâne, et le crâne est très impressionnant. D'abord, il est long, il est bas, ce qui est normal pour son âge. Il a une arcade au-dessus des orbites, comme ça, continue, et assez forte. Des orbites qui sont assez petites, avec un espace entre les orbites qui est large. Il est un peu concave dans le haut, un peu prognate dans le bas, mais pas beaucoup. Il n'est pas très prognate. Et les dents sont pas très fortes et ont un émail qui est ni gros ni mince, quoi. Et l'arrière de la tête, par contre, est très très pincé et il y a ce qu'on appelle des crêtes. À la fois sur l'occipital et sur la partie sagittale, qui rappelle au moins une forte musculature. Mais le trou occipital est placé de telle façon qu'il a l'air d'être debout. 7 millions d'années, c'est celui du Tchad, celui-là. Alors officiellement, il s'appelle Sahelanthropus tchadensis. J'ai été co-signataire. Alors après, il y a Aurorine. Alors Aurorine, quelle merveille! Après la dent trouvée en 74 à Lukeino, Aurorine est connue par plusieurs restes de fémur, un bout de d'humérus et une phalange. La phalange est courbe, il y a des chances qu'il grimpe. L'humérus a l'insertion d'une musculature qui révèle aussi qu'il grimpait. Et le fémur, au contraire, le fémur a une linea aspera. Vous vous rendez pas compte, mais pour un anatomiste, trouver une ligne âpre sur un fémur de 6 millions d'années, quel bonheur. Alors, la ligne âpre, c'est une petite rugosité de l'os. L'os est un petit peu sensible comme ça. On voit qu'il y a des rugosités. Et s'il y a des rugosités, c'est qu'il y a une insertion. C'est qu'il y a une musculature dessus. Et la musculature qui s'insère sur la ligne âpre, c'est le gluteus maximus. Je vous embête, hein. Le gluteus maximus, c'est le grand fessier. Quand on a des fesses, c'est qu'on est debout. Autrement, ça sert à rien. Et si on est debout, les fesses, ça entre dans l'équilibre d'un corps redressé. Or, Aurorine, 6 millions d'années, a des fesses. Alors que je vous avais évité ce détail, mais quand on a étudié l'arrière-train de Lucie, on était consterné de s'apercevoir qu'elle avait les fesses d'un singe, quoi, très très plates. Et ça ne devrait rien faire à des chercheurs au sein d'un laboratoire. Or, quand Christine Berge nous a révélé ça, il y a eu une morosité dans le labo. On était déçus par notre petit personnage. Et donc, Aurorine, 6 millions d'années, lui, est bien debout, bien bipède, tout en étant encore grimpeur. C'est le fait général, hein, finalement. À peu près aux mêmes époques, il y a Ardipithecus. Alors, je ne donne pas le détail, parce qu'il y a Ardipithecus ramidus, 4,4 millions, Ardipithecus ramidus cadaba, entre 5,2 et 5,8. Donc, lui, il a presque 6 millions d'années aussi. Et Ardipithecus, il nous embête, au point qu'il n'est pas complètement publié, parce que lui aussi a l'air d'être droit, lui aussi a l'air de grimper, mais il a des dents comme des dents de chimpanzé, avec un émail très mince. Ça veut dire, on ne sait pas, est-ce que c'est un retour aux arbres, est-ce que c'est un chimpanzé en pleine Éthiopie, on ne sait pas. Voilà pour les plus anciens. Alors, du temps de Lucie, il y en a un qui est fameux, qui est apparu dans le film, encore une fois, de François, mais vous ne l'avez peut-être pas bien remarqué, il s'appelle Anamensis, Australopithecus Anamensis. Il a des dents d'Australopithèque, c'est-à-dire des dents très fortes, mais il a, enfin on n'a pas grand-chose, hein. On a la partie inférieure d'un humérus, la partie supérieure d'un tibia. Vous me direz qu'on est gonflé de faire des conclusions avec ça, mais la partie inférieure de l'humérus, ça donne le coude, et le coude est un coude très très lâche, du genre du coude d'une autre, du coude des hommes actuels. On fait plus rien, nous, on grimpe plus, hein. Donc on a un coude qui n'est pas très stable. Et au contraire, le genou montre un genou extrêmement stable. Donc c'est l'inverse de Lucie, si on peut dire, si on peut parler d'inverse. Mais Lucie a un genou instable, Anamensis a un genou très stable, Lucie a un coude très stable et Anamensis a un coude instable. Et il est possible que ces deux êtres contemporains, c'est pour ça qu'on les a fait apparaître dans le film à la même époque, au même moment. Il est possible que Lucie et Anamensis aient vécu au même moment et que Lucie ait été bipède et arboricole et qu'Anamensis ait déjà été le premier dès 4 millions d'années. Dès 4 millions d'années, le premier à être simplement bipède. En même temps, il y a Australopithecus Barrel-Ghazali, trouvé aussi au Tchad, donc 2500 km à l'ouest de la Rift Valley. Et celui-là, on n'en a qu'une mâchoire inférieure. Il y a un petit bout de mâchoire supérieure, mais je ne suis pas censé vous le dire, parce qu'il n'est pas publié encore. Et puis, il y a ces restes trouvés en Afrique du Sud. Et récemment, il y en a un autre qui s'appelle Kenyanthrope, vous voyez comme c'est compliqué, qui a aussi 3,5 millions, et qui, lui, a une face plate. Kenyanthropus platyops, il s'appelle celui-là. Alors, comme il a la face plate, on le regarde d'un œil tendre, parce que nous-mêmes n'avons pas beaucoup de prognatisme comme avait Lucie, donc on l'aime bien, quoi. Et puis au-dessus, il y a d'autres australopithèques, alors je vous les passe pas en revue, et puis apparaissent les premiers hommes. Alors qu'est-ce qu'il faut conclure de tout ça? C'est que tout ce monde extraordinaire, tout ce bouquet extraordinaire des préhumains se présente comme des êtres qui sont à la fois bipèdes et arboricoles, et dont on guette les traits susceptibles de révéler bientôt l'apparition de l'homme. Alors, que sont ces traits? Dents à émail épais, et ça se voit dès Samburopithecus de 9,5 millions d'années. Dents petites, et les dents petites n'apparaissent que chez Aurorine et Kenyanthropus et l'homme, parce que chez tous les australopithèques, les dents sont très fortes. Et il y a une sorte de mégadoncie qui n'est peut-être pas dans le sens de l'homme. Prognatisme, est-ce que le prognatisme est fort? Il est fort chez Lucie, il est beaucoup moins fort chez Kenyanthropus, il n'est pas très fort chez Sahelanthropus, chez Toumaï. et d'autre part, capacité crânienne. Mais ça, chez Toumaï, c'est 300 cm3, chez Lucie, c'est pas tout à fait 400, et chez les derniers Australopithèques, autour de 500, donc ça monte seulement doucement. Donc on a, en gros, durant ces 20 dernières années, bien qu'on ait eu les premiers rameaux il y a longtemps, dès 1924, on a un bouquet, superbe bouquet de préhumains, avec des quantités donc d'inflorescences. On sait que la plus grande partie de ces inflorescences vont mourir. Certaines vont donner les Australopithèques robustes jusqu'au tour d'un million d'années. Et une, au moins une, peut-être plus, mais quand même, ce serait un peu bizarre, au moins une lignée, mais on ne sait pas trop laquelle, va donner l'homme. Les humains ont forcément une origine préhumaine. Et parmi ce choix de préhumains, il n'y a peut-être pas encore le bon préhumain ancêtre de l'homme, peut-être qu'on ne l'a pas encore reconnu, mais peut-être que dans les branches nombreuses que je vous évite de passer en revue, il y a la bonne branche qui va donner les humains. Moi, je trouve sympathique Aurorine Kenyanthrope, mais Aurorine qui a 6 millions d'années, Kenyanthrope 4 millions 5, mais je suis pas sûr du tout. Anamensis est plaisant aussi avec sa capacité de marcher seulement dès 4 millions d'années. Et on en est là, quoi. Mais en 20 ans, c'est un développement considérable dans la connaissance de l'anatomie, dans la connaissance de la famille et dans la connaissance de cet extraordinaire préambule préhumain de notre histoire. Merci.